Donc, moi, je vais partager sur le fait d'être guidé par Dieu. Et il y a cette parole de Jérémie où il est parlé que Dieu ne parlait pas dans le tonnerre, ne parlait pas par une tempête, pas par le feu, mais par une petite voix douce. Et donc, on va voir un peu la voix du Saint-Esprit que nous avons reçue, chacun, pour tous les croyants. Tout le monde est croyant ici. Donc, tout le monde a reçu le Saint-Esprit. Et en fait, je pensais que, bon, on peut être chrétien, ça fait des années qu'on marche avec Dieu, et puis on peut prendre certains automatismes. Et puis, on connaît beaucoup de choses, mais en fait, on va à l'église, on lit sa Bible, on prie et tout ça. Et après, on se sent pas très très bien. Et puis, on se dit, mais où Dieu, t'es peut-être un peu loin. Et puis, le Saint-Esprit, ah oui, c'est vrai qu'il y a... Il y a trois personnes en Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et puis, on a oublié un peu que le Saint-Esprit est en nous et que c'est lui qui nous guide pour nos vies de tous les jours. Et moi, j'avais envie de revenir à ça, qu'on reconsidère ça. Et pasteur Michel Roux, qui était là le week-end dernier, donc a eu chaud, moi, quand j'y étais. Il a fait un partage justement sur ça, sur le fait d'être sensible et d'être conduit, guidé par le Saint-Esprit, parce que nous l'avons reçu chacun lors de notre conversion. Donc, Dieu a fait son habitation en nous par le Saint-Esprit lors du salut, et il désire à présent, chaque jour, chaque instant, chaque seconde, chaque minute, remplir nos vies. Et qui est le Saint-Esprit? Alors Martine, elle va me sortir sa thèse. C'est 50 pages de... Donc, le Saint-Esprit, là, c'est une vraie question, hein. Là, je ne pose pas une question comme ça pour que vous écoutiez. Il est une personne. Tac, tac. Il est appelé le Consolateur. Jésus a dit, je vous enverrai, quand il était prêt à partir, je vous enverrai le Consolateur, dans Jean 14, versets 15 à 17. Quoi d'autre sur le Saint-Esprit? Il est Dieu. Donc Dieu est dans trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors on dit souvent que le Père, il a pensé au plan du salut, c'est lui qui planifie les choses. Le Fils, Jésus-Christ, il a exécuté le plan de Dieu, donc il est venu sur la terre et puis mourir sur la croix, payer pour nos péchés. Et le Saint-Esprit, il vient, il révèle l'œuvre de Jésus-Christ et le moyen d'être en relation avec Dieu. Donc, mais tous les trois sont entièrement Dieu, et il n'y en a pas un plus inférieur à un autre, ils sont soumis les uns aux autres, mais ils sont tous les trois donc Dieu. On voit que le Saint-Esprit était là lors de la création, dans Genèse chapitre 1 et verset 2. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ensuite, il y a plein d'endroits, mais dans Matthieu 1, 18, il était là lors de la conception du Sauveur, en fait, dans le ventre de Marie. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Donc, on voit le Saint-Esprit en action. Donc c'est des moments quand même clés, hein, de l'histoire de l'humanité. Il y a plein d'autres endroits. On voit le Saint-Esprit lorsque Jésus est baptisé, juste avant son ministère. Et puis on verra plus tard donc l'action du Saint-Esprit chez les croyants. Alors l'homme, on sait qu'il est, il est fait de corps, âme et esprit. Et donc notre esprit, avant d'être converti, d'être sauvé, notre esprit est comme mort, irrégénéré, tout ça. Et donc c'est pour ça que dans Jean 3, Jésus a dit à Nicodème, il faut naître de l'Esprit de Dieu pour pouvoir comprendre donc, et saisir les choses de Dieu. Donc on reçoit le Saint-Esprit le jour où nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés. À ce moment-là, il est dit que nous devenons enfants de Dieu, et c'est le Saint-Esprit qui témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Dans Romains chapitre 8 et verset 12, le Saint-Esprit témoigne que nous sommes enfants de Dieu, et il témoigne en nous, on le sait parce qu'il vient habiter en nous. Il est dit aussi que le Saint-Esprit nous scelle, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on reçoit une marque, un sceau. Hein, les rois, lorsqu'ils écrivaient des lettres, ils cachetaient l'enveloppe avec de la cire, et puis avec leur bague, là, ils mettaient leur sceau. Ça voulait dire que c'était une lettre écrite par eux. Et ça certifiait que ça venait vraiment d'eux, quoi. Donc c'est de la même manière, nous avons été scellés, nous avons le sceau de Dieu sur nous par le Saint-Esprit qui est en nous. Et donc aussi, le Saint-Esprit nous a baptisés dans le corps de Christ. Et tout ça, s'est passé à notre conversion. Il nous a plongés, pof, et voilà, tu es dans le corps de Christ maintenant. Je t'ai plongé, tu fais partie, tu es un membre du corps de Christ. Mais une chose qu'on sait au sujet de Dieu, qui est assez incroyable, quoi, c'est qu'il ne s'impose jamais. Il est tout puissant, il est majestueux, et en même temps il respecte toujours nos choix, notre libre arbitre, et ça c'est quelque chose, enfin, pour moi assez incompréhensible et en même temps merveilleux. Et donc en même temps il nous est dit autre chose, que on a reçu le Saint-Esprit, mais on doit être rempli du Saint-Esprit, et donc ça c'est une autre chose. Nous avons reçu le Saint-Esprit, chaque croyant a le Saint-Esprit. Nous sommes le temple de Dieu, on a toutes ces illustrations qui nous assurent cela. Mais ensuite, il nous est commandé d'être remplis du Saint-Esprit. Donc ça a été un petit peu ma méditation, comment être rempli du Saint-Esprit et qu'est-ce que ça veut dire. Donc c'est dans Éphésiens chapitre 5, verset 18. On ira jusqu'à 21. C'est l'apôtre Paul, donc, qui adresse une lettre aux Éphésiens, mais on pense que c'était une lettre circulaire qui était donc adressée à plusieurs églises, mais en Asie mineure. Donc c'était surtout adressé à des païens, en fait, à l'origine. C'était pas des juifs, quoi. Donc il est dit, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. » Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Voilà. Donc, on va voir le verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Là, donc, on a un contraste, mais il m'a toujours choqué ce contraste. Je trouve, il va fort, Paul, comme ça. Hein. Mais en même temps, il y a une raison. Il y a une raison à l'emploi de ce contraste, parce que le fait d'être, de s'enivrer de vin, c'est... Donc, pensez, hein, ils s'adressent à des païens. Ils ont un arrière-plan. Ils avaient des pratiques religieuses. Ils adoraient d'autres dieux et tout ça. Et donc c'est pour ça qu'il y a, une raison vraiment spirituelle dans, ce contraste. Parce que lorsqu'ils adoraient leur Dieu, en fait, ces païens, eh bien, ils utilisaient des liqueurs fortes, de l'alcool. Et encore aujourd'hui, on voit que dans certains cultes, dans certaines religions, l'emploi d'alcool fort et tout ça, et puis les danses, les rythmes et tout ça, amène les gens dans une transe. Et en fait, les gens pensaient qu'ils rentraient en contact avec les dieux. Et donc c'est pour ça qu'il utilise ça, enfin cette image-là du vin, d'être enivré, parce que eux, en fait, leur arrière-plan, c'était adorer Dieu, c'était boire de l'alcool, commencer peut-être à danser, avoir certaines choses, être dans un état un peu d'extase, et puis ils entraient en contact avec des forces spirituelles et tout ça. On sait que c'était pas Dieu, mais en fait, c'était ce qu'ils connaissaient. Donc, il remet les choses en place et il dit, maintenant, c'est plus cette manière-là, c'est pas par cette manière-là que vous allez pouvoir avoir accès à Dieu. Mais en même temps, il dit, ce que vous recherchiez, cette liberté, c'est le fait d'être rempli, de plus être attaché à cette terre et tout ça, de vouloir s'élever, en même temps, c'était un désir légitime, quoi, quelque part. Et donc, il fait le contrebalancier, il dit soyez rempli de l'esprit, parce que être rempli d'esprit, ça va vous apporter, en fait, ce que vous avez cherché. Ce que vous avez cherché à travers ces pratiques, à travers donc la consommation d'alcool et tout ça. Donc, il y a une raison religieuse et spirituelle. Donc les gens avaient besoin d'être enseignés, voilà ce que vous faisiez là, c'est pas bien, et ça vous amène pas à Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit c'est de la débauche, parce que c'était peut-être pas évident pour eux, parce que bon, ils avaient fait ça pendant des années, leurs parents avaient fait ça, c'était peut-être pas quelque chose d'horrible pour eux, quoi. Donc sur le mot enivré, c'est être ivre et tout ça, mais le contraire de ça, c'est donc être sobre, et c'est savoir restreindre sa liberté. Donc le contraire, c'est que lorsqu'on s'adonne au vin et tout ça, on restreint pas notre liberté, on y va jusqu'au bout, quoi. Et donc le contraire de s'enivrer aussi, c'est s'exercer à une pensée saine. Parfois, le fait d'avoir les contraires nous font comprendre ce qu'est l'opposé, en fait. Donc, lorsqu'on est enivré, on n'a pas une pensée saine. Ensuite, donc on a le mot débauche, et en grec, c'est asotia. Et c'est assez intéressant parce que mercredi soir, j'étudie un petit peu pour maintenant, là, et ça veut dire prodigue. Et mon mari venait juste de parler du fils prodigue quelques minutes avant. J'étais là, j'ai dit, moi, j'aurais pas pensé. Enfin, c'est vrai que bon, le fils prodigue, il est tombé dans la débauche, mais. Donc ça veut dire donc prodigue, vide dissolue, quelqu'un qui dépense trop. Alors ça peut être de l'argent, mais après là ça peut être aussi ça. Il va dépenser sa santé, il va dépenser tout ce qu'il aurait pu avoir sans cette débauche. Et il le perd, quoi, dans la débauche. Et le contraire donc de la débauche, en fait, c'est la confiance, la tempérance, pareil la sobriété. Et encore cette capacité de placer des limites sur notre liberté. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque les gens vivent dans la débauche, quelle qu'elle soit, ils vont dire finalement moi je suis libre, je me mets pas de barrière, je vis à fond, à 100% et tout ça. Mais ce que ça fait, en fait, c'est que ça donc ils ont aucune restreinte. mais ils deviennent esclaves des choses auxquelles ils s'adonnent. Et pour nous, en fait, le fait d'être, de ne pas s'enivrer, tout ça, eh bien, on restreint notre liberté, donc c'est quand même une limitation qu'on se donne. Hein. Mais ça va nous apporter le bonheur, ça va nous apporter vraiment une liberté. Donc c'est un petit peu contradictoire, mais c'est ça, la vérité. Et donc aussi, il y a une ressemblance en fait dans l'état dans lequel la personne est lorsqu'elle s'enivre. Et puis être rempli de l'esprit, c'est que les gens ils sont joyeux, s'ils étaient peut-être complexés, ils n'osaient pas parler, là ils parlent et tout ça. Enfin, il y en a qui chantent, peut-être pas toujours juste en plus. Et être rempli de l'esprit. Et aussi ça produit une joie, donc c'est pour ça que en même temps il y a cette comparaison, quoi, et pour faire comprendre aux gens ce que vous avez recherché dans l'alcool, dans cette libération, le fait de plus se sentir jugé et tout ça, mais vous allez le retrouver en étant rempli de l'esprit, mais avec une dimension décuplée, quoi. Et donc ensuite, après, il donne les effets d'être rempli de l'esprit. On le verra, mais ça va être s'entretenir par des psaumes et tout ça. Et en général, s'enivrer de vin, les conséquences, c'était vraiment des choses horribles, quoi. Ça a amené à des péchés horribles, à une dépravation. Enfin, donc ça devait vraiment marquer les gens de voir cette opposition. Et puis on gagnait vraiment au change, quoi, en étant rempli du Saint-Esprit. Et donc, être rempli du Saint-Esprit, soyez au contraire rempli de l'Esprit. Et pour illustrer un petit peu cela, on va voir dans Actes 2, 4, parce que c'est là où le Saint-Esprit vient sur les croyants, et on va habiter les croyants. C'est donc la venue du Saint-Esprit donc sur la terre et dans les croyants. C'est la... Avant, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit reposait sur les gens, mais il n'habitait jamais les croyants. Il fallait que Christ soit mort sur la croix pour qu'il puisse habiter dans un être humain, parce que la purification était faite, quoi. Et donc là, c'est la venue du Saint-Esprit sur la terre et dans les croyants. Donc, acte 2, 4. Ils furent, donc verset 3, on va voir comment ils arrivent. 2, 1, verset. Le jour de la Pentecôte, c'était une fête juive déjà. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres. Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres. Que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Donc, c'est vrai que la joie qu'ils dégageaient et leur apparence et tout ça faisait penser, pour ceux qui se moquaient, qu'ils avaient bu, quoi. Donc, on voit un petit peu la corrélation, mais ils n'étaient pas. Ils étaient donc remplis de l'esprit. Donc là, on voit qu'il parle des langues connues. Hein. Tout le monde comprend ce qu'ils disent. Et il parle donc des merveilles de Dieu. Et on verra par la suite, le fait de s'entretenir, d'être rempli de l'esprit, eh bien, ça amène à louer Dieu, à parler des merveilles de Dieu. Parce que ben, le Saint-Esprit, il aime parler des merveilles de Dieu. Il aime ces choses-là. Donc, qu'est-ce qu'on voyait d'autre ? Non, donc, ça, c'est un peu pour montrer que ce qu'on a dit un peu, c'est quand on est rempli du Saint-Esprit, eh bien, on a vraiment cette joie et cette liberté. On voit que l'apôtre Paul aussi, lors de sa conversion, Ananias, un croyant, doit venir prier pour lui, pour qu'il recouvre la vue. Et aussi qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Donc Jésus aussi avait besoin d'être rempli du Saint-Esprit, et parce que Jésus il s'est identifié entièrement à nous, il a voulu vraiment dépendre du Père, et il est parlé de lui aussi rempli du Saint-Esprit. Il fut poussé dans le désert. Donc être rempli, ça veut dire, quand il est dit soyez rempli du Saint-Esprit, ça veut dire soyez constamment en train d'être rempli au niveau du temps. Donc soyez constamment en train d'être rempli. Le fait d'être rempli du Saint-Esprit, c'est pas une fois pour toutes. Une fois pour toutes, on reçoit le Saint-Esprit et il ne nous quitte plus jamais. Mais être rempli du Saint-Esprit, c'est quelque chose qu'on demande à Dieu, enfin qu'on... C'est une attitude de cœur où on est disponible à Dieu pour qu'il nous remplisse. On verra après comment être rempli, mais donc on est en train d'être rempli, donc tout au long de nos journées. Ça veut dire qu'à certains moments, eh ben peut-être qu'on n'est plus rempli du Saint-Esprit, parce que ben il y a plein de pensées qu'on a laissé entrer en nous, et on devient soucieux. Et au lieu de penser que Dieu est en contrôle de toutes choses, qu'il est fidèle, que je peux me garder dans sa paix et tout ça, je commence à me soucier. Et donc là, je suis plus remplie du Saint-Esprit. Et il faut juste que je revienne et puis que je sois à nouveau remplie du Saint-Esprit. Soyez constamment en train d'être remplie par le Saint-Esprit. Donc, c'est un impératif, c'est un commandement, mais en même temps, c'est soyez remplis, ça veut dire que c'est passif. C'est pas nous qui nous remplissons. Hein. Il n'est pas dit remplissez-vous du Saint-Esprit. C'est pas ce qui est dit. Il est dit soyez remplis. Alors soyez remplis. Ben par qui ? Par c'est le Saint-Esprit qui va nous remplir. Nous, en fait, on doit avoir une disposition. Notre volonté doit entrer en action toujours. Mais c'est pas nous qui nous remplissons, parce qu'on veut pas, de toute manière. Donc, c'est rempli du Saint-Esprit, c'est comme si on est poussé. Dieu va nous conduire et nous diriger, comme le vent qui souffle dans les voiles d'un navire. Donc, il y a cette idée. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit aussi, nous sommes pénétrés, comme le sel qui pénètre la viande. Donc, à chaque fois, c'est un choix. Et lorsque je me laisse remplir par Dieu, eh bien, je suis pénétrée par Dieu. Plus, en fait, je reviens à Dieu quand je me rends compte que je suis plus remplie du Saint-Esprit, eh bien, plus je vais être pénétrée par qui est Dieu, en fait, à l'intérieur de moi, dans chaque domaine de ma vie. Mais c'est pas un état constant. On n'est pas toujours comme ça. Et en même temps, c'est pas un état qui est donné qu'à certaines personnes qui sont vraiment très spirituelles. Non, Dieu il sait de quoi nous sommes faits. C'est pour ça qu'il est dit soyez constamment. Ben vous avez échoué, hop, vous vous relevez comme une balle qui rebondit, hein. Et puis en train d'être rempli comme ça. On est sous le robinet et puis des fois on sort du robinet et puis après on revient et puis on est à nouveau rempli. Et puis ça veut dire aussi contrôler entièrement. Donc ça veut dire être poussé, pénétré et contrôler entièrement. Donc ça veut dire que nous sommes dominés par le Saint-Esprit, mais aussi volontairement. C'est pas comme, par exemple, ces gens qui adoraient les faux dieux. Ils pouvaient être possédés par ces esprits. Alors là, eux, ils n'avaient pas de volonté en action, quoi. Nous, on a toujours notre volonté en action. Et donc, il y aura cette voix douce qui va nous conduire, qui va nous dire, tiens, fais ça, appelle telle personne, ou enfin, je sais pas. Et puis donc, nous, on obéit, quoi, à la voix du Saint-Esprit. Donc, comment être rempli du Saint-Esprit? Alors, une des choses, premièrement, c'est que si Dieu le commande et le demande, eh ben, il va y pourvoir. Parce qu'il ne va pas nous dire, allez, fais ça, mais tu n'y arrives pas, tu n'y arriveras pas. Non, Dieu n'est pas comme ça. Donc, s'il nous le demande, ben, c'est que c'est possible. Et que c'est pas au-delà de nos forces, quoi. Donc, c'est une soumission à Dieu. Et c'est manifesté par le fait que, ben, on ouvre nos cœurs à Dieu. Et. On confesse des péchés si on a des péchés à confesser. On voit s'il y a des zones d'ombre qui peut endommager notre relation avec Dieu ou quoi. Et puis donc c'est, on va se vider en quelque sorte. On va dire ben pas mes pensées. Je veux pas que ce soit mes pensées qui contrôlent ma vie ou quoi, mais je veux que ce soit toi qui contrôle ma vie. On voit que dans Jean chapitre 3 et verset 30, Jean le Baptiste a dit « Il faut qu'il croie, c'est que moi je diminue. » Donc, être rempli du Saint-Esprit, c'est ben, c'est pas moi qui suis au centre de ma vie. Je diminue ce que... toutes ces choses que je pense que je devrais avoir, toutes mes opinions, toutes... Je les abandonne, quoi. Et puis, je dis non, je veux que ce soit toi qui prennes le contrôle de ma vie. Et puis aussi, par la parole de Dieu, on va être rempli. Et ça, on voit ça dans Colossiens 3:16. La parole de Dieu qui demeure richement en nous. Parce qu'en fait, le Saint-Esprit, il remplit quoi? Il nous remplit à quel niveau? Parce que bon, c'est imagé, être rempli. Et rempli quoi? Comment est-ce qu'on est rempli? C'est-à-dire? Ouais? Et ça se manifeste comment? Ouais? Et ça se manifeste par comment? Hein? Alors, oui, ça produit donc une paix. Non, mais c'est imagé, être rempli. Je veux dire, c'est pas... On n'est pas un verre et puis avec un liquide qui le remplit, c'est quoi ça? On est rempli comment en fait? Voilà, c'est les pensées, c'est au niveau de nos pensées que ça joue. Après, ça va jouer sur nos émotions et sur nos et puis bon, notre volonté aussi est en action et puis même notre volonté peut être aussi fortifiée de suivre Dieu parce qu'on est aussi rempli de Dieu. Donc, être rempli du Saint-Esprit, c'est avoir ben, les pensées de Dieu, être renouvelé dans nos pensées, quoi. On voit dans Éphésiens aussi un peu plus tôt au chapitre 4, il est parlé du renouvellement de notre intelligence par l'esprit, quoi. Enfin, être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Donc ça touche notre intelligence, nos pensées et tout ça, parce qu'en fait nos actions, hein, tout ce qu'on fait ou quoi, c'est toujours basé par rapport à nos pensées, ce qu'on pense de nous, ce qu'on pense de Dieu, ce qu'on pense des autres. C'est tout ça qui joue. Donc, c'est comme ça qu'on va être rempli. Donc, la parole de Dieu, eh bien, elle change nos pensées. Hein, je pensais que j'étais comme ça, et puis la parole de Dieu me dit que je suis comme ça, comme ci, comme ça. Bon. Et que je pensais que Dieu était ainsi, et puis en fait, Dieu est différent de ce que je pensais. Et puis donc, après, mes actions vont être différentes, mes émotions vont être différentes. Je pensais que Dieu était dur, qu'il voulait que, simplement que je marche droit. Et en fait, j'apprends dans la Bible quoi que Dieu est un Dieu gracieux qui n'écrase pas celui qui est tombé, quoi, mais qui le redresse. Donc mes pensées changent sur Dieu, ça me donne de l'espoir pour moi et je suis renouvelée donc dans mes pensées. Donc Colossiens 3:16, on peut dire que c'est un passage parallèle à Éphésiens, parce qu'on va le lire, vous allez voir. On retrouve les mêmes choses. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Donc encore là, vous voyez, il est parlé de s'exhorter et puis de chanter des psaumes, des hymnes, des cantiques. Et puis après même, au verset 18, nous on ne l'a pas lu dans Éphésiens, mais il est parlé de la soumission des femmes, les serviteurs, aux maîtres et tout ça. Et dans Éphésiens, il parle de la même chose en fait. Donc on peut dire que c'est un peu un passage parallèle. Donc la parole de Dieu qui demeure richement en nous, nous permet donc d'être remplis de l'esprit. Et être rempli de l'esprit, on peut dire aussi, on peut l'illustrer par une marche. C'est une marche, hein, comme on a vu, être constamment en train d'être rempli, c'est comme une marche. Je fais un pas après l'autre. Alors peut-être je fais un pas et puis je tombe. Et puis ben, je me relève et puis je fais un autre pas, etc. Donc dans Galates chapitre 5 verset 16, il est parlé, vous qui vivez par l'esprit, ben, marchez dans l'esprit. Nous vivons dans l'esprit parce que nous avons reçu l'esprit. Et ensuite il y a une marche, donc ça c'est être rempli du Saint-Esprit. Lorsque nous marchons, c'est que ben nous laissons remplir par Dieu et ensuite ben, nous agissons comme Dieu le veut, quoi. Et donc rappelons-nous donc c'est un pas après l'autre. J'ai échoué, hop, je remonte et puis c'est pas écoute, si tu es rempli, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit le matin. Si tu as raté cette occasion, on a fermé le robinet, donc tu attendras demain. Ou alors trois fois par exemple on a échoué, ça y est, le robinet est fermé. Non, c'est pas comme ça, constamment. Donc qu'est-ce que ça produit? Ben nous sommes donc transformés à l'image de Christ. C'est un processus dans 2 Corinthiens 3:18. Et quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, on est rempli de tout le Saint-Esprit. C'est pas bon, toi, ça fait 3 mois que tu es converti, donc tu auras 3 centimètres du Saint-Esprit ou quoi. Non, c'est toute la personne du Saint-Esprit. Donc après, c'est nous parfois qui nous déplaçons de là où on pourrait être rempli par le Saint-Esprit. On laisse la place à autre chose et donc on est rempli par autre chose, quoi. Mais le Saint-Esprit, il est 100% Saint-Esprit, il est 100% Dieu. Et on a vraiment ce privilège de pouvoir avoir vraiment Dieu en nous, quoi. Donc 2 Corinthiens 3:18. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Donc, c'est ce que Dieu est en train de former en nous. Alors, ben, les conséquences, au verset 19, dans Éphésiens 5, 19, moi je dirais, enfin, dans tous les commentaires, il parlait que c'était des conséquences, mais moi je dirais aussi que c'est aussi une manière d'être rempli. Moi je sais que le fait de chanter, ben peut-être je suis peut-être pas rempli du Saint-Esprit au moment même, mais et ben ça m'amène d'être dans la présence de Dieu et ça me remplit. Donc il y a deux aspects, moi je dirais, hein. Bon, peut-être que je suis hérétique, mais je pense pas, mais c'est des conséquences en tout cas. Mais je pense aussi c'est ce qui nous permet. Il est dit entretenez-vous, donc ça aide aussi, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Donc il est dit, donc on a le chant. C'est vrai que L'expression de la joie, souvent, c'est par le chant. Lorsqu'on a un cœur rempli de joie, ben, on a envie de chanter et tout ça. Et là, donc, entretenez-vous ou alors parlez-vous. Je ne sais pas qui c'est qui a Darby. Personne n'a Darby. Qu'est-ce qu'ils disent, eux ? Non, Éphésiens 5, 19. 19. Vous entretenant, bon, pareil. Ouais, en anglais, c'est « speak to one another ». C'est ce qu'on chante comme chant quand on chantons de tous nos cœurs. Donc, c'est se parler l'un à l'autre. Et en fait, c'est assez proche du grec. Et j'aime beaucoup ce petit mot. « Entretenez-vous ». Et vous, je pense que vous rappellerez ce que c'est « l'aléo ». Ça vous dit rien, là. Mais vous allez voir. En fait, ça veut dire « entretenez-vous », c'est émettre un son, parler comme un petit enfant qui dit « la 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 ». Enfin, qui ne sait pas trop parler, hein. Donc, il émet un son, il est content. Vous voyez Yéli, et elle dit « la 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 », et voilà. Donc, « entretenez-vous », c'est ça, c'est l'aléo. Émettre un son, donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être un grand soprano, je sais pas quoi, ou contralto, une grande voix d'opéra, pour s'entretenir par des psaumes et des hymnes. C'est simplement émettre un son. Donc, il n'y a pas... Vous serez, personne n'est jugé. Et comme les petits enfants qui disent la 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 la, y a, parfois, y a, je sais pas, il n'y a même pas des paroles. Mais donc, tout le monde, en fait, peut faire ça. À l'image de ce petit enfant, et c'est pour ça que ce mot est utilisé. Donc, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Alors, les psaumes, ce sont des chants qui parlent de la gloire de Dieu, qui glorifient Dieu. À la différence des hymnes qui parlent de Jésus-Christ, de l'œuvre de Jésus-Christ. Et les cantiques spirituels, ce sont des chants qui parlent un peu de notre expérience avec Dieu. Et je trouvais ça intéressant, ces trois termes, parce que lorsque on loue Dieu, c'est peut-être important d'avoir ces trois sortes de chants. Ces chants-là qui glorifient Dieu, qui... nous, on n'est pas là dans le chant, en fait. On pense juste à Dieu, qui il est, tout ça. Dans les hymnes, ça parle de l'œuvre de Jésus-Christ. Et donc, on se concentre sur ça. Puis après, les cantiques spirituels, c'est « Seigneur, attire mon cœur vers toi ». Enfin, c'est notre relation avec Dieu. Mais parfois, peut-être, on peut être tellement centré sur nous, on va chanter que des chants qui parlent de notre relation avec Dieu. Mais ça ne nous élève pas à Dieu qu'il est majestueux et tout ça. Nous, on reste encore le centre parfois, même dans nos petits chants ou quoi, dans notre... donc, c'est pour ça que c'est peut-être bien d'avoir... c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a eu cet ordre qui est donné, tu sais, d'élever Dieu. Nous, on n'est pas dans l'histoire et on contemple Dieu. On contemple Jésus-Christ, son œuvre. Et puis après, notre relation avec Dieu, quoi. Et donc, c'est un fruit d'être rempli de l'Esprit. Quelqu'un qui est rempli de l'Esprit a envie, en fait, de chanter comme ça, même si c'est pas très beau, mais... et donc, si on n'a pas cet entrain, en fait, peut-être c'est peut-être un baromètre aussi pour nous de se dire est-ce que je suis rempli de l'esprit ou est-ce que j'ai tellement de choses qui me préoccupent que j'ai aucune louange à offrir à Dieu. Et ensuite, donc, on a chantant. Eh bien, c'est chanter. Et... ensuite, célébrant les louanges, donc c'est un même mot. C'est psalos, donc ça vient de psaume. Jouer d'un instrument, et n'importe quelle sorte de musique, vocale ou instrumentale. Mais aussi dans le terme entretenez-vous, comme je disais, c'est bien rendu en anglais, c'est chanter l'un à l'autre des psaumes, des cantiques spirituels. Et donc, ça veut dire qu'on est ensemble, on chante ensemble. Et ça, c'est important dans notre vie spirituelle. Et ça montre qu'on est rempli du Saint-Esprit, de vouloir chanter les uns avec les autres. Ensuite, il est rendre grâce. C'est la deuxième conséquence. Donc la première chose, en fait, on peut dire que c'est une conséquence qui nous concerne. C'est envers nous et un petit peu ensemble, on va louer Dieu. Et il y avait autre chose que je voulais dire sur le chant qui était très beau, c'est que on voit, comme j'avais dit, que c'est l'expérience de notre joie. L'expression de notre joie et notre espérance. Et dans Exode 15, 1 à 18, lorsque le peuple a été délivré d'Égypte, ils se sont mis à chanter. Et c'est évident, là, ils étaient en esclavage. Ils ont vu la mer rouge qui s'ouvrait, les Égyptiens qui étaient recouverts par l'eau, eux, ils étaient sains et saufs, ils étaient libres. Donc, obligatoirement, ils ont chanté à Dieu. Et c'est bien de penser peut-être dans les cultes et tout ça, de penser à cette image-là. Nous avons été délivrés de l'esclavage du péché, un peu comme eux ont été. Et donc on veut chanter, on veut remercier Dieu, quoi. Et ensuite, une autre fois où il y a eu beaucoup d'endroits où les gens chantaient suite à une intervention de Dieu, mais aussi dans Matthieu 26 et verset 30. Lors du dernier souper, Jésus avec ses disciples, ils sont allés dans le jardin de Gethsémané. Et puis à la fin, c'est un petit verset comme ça, mais je trouve magnifique. Et ils chantèrent des cantiques. Et puis bon, après, Christ va être livré. Et Jésus chantait des cantiques. Donc c'est vraiment une expression de notre joie, de notre reconnaissance à Dieu. Aussi en prison, on voit Paul et Silas qui chantaient. Et puis les murs sont ébranlés et puis ils étaient libres, quoi. Et on sait qu'au ciel, on va chanter. Donc on peut s'entraîner un peu ici. Donc tout ça, c'était le fait d'exprimer notre joie, notre connaissance à Dieu par le chant. Ensuite, on a rendre grâce. Et donc c'est Eucharistéo. Eucharistie, tout ça. Bon. Donc c'est rendre grâce. Et dans les livres, dans les épîtres, les lettres de Paul, là, c'est toujours suivi de théos, donc de Dieu. C'est toujours rendre grâce à Dieu. Donc c'est remercier, louer, adorer, tout un peu des synonymes. Mais le contraire, par exemple, de rendre grâce, c'est condamner, juger, trouver la faute, rejeter, blâmer, accuser. Et alors je me suis dit, est-ce que je dis, je suis parfois pas remplie de l'esprit, parce que je blâme Dieu pour telle circonstance, je blâme quelqu'un d'à côté de moi parce que Dieu il est un peu loin pour le blâmer, mais donc je blâme mon mari pour telle chose au lieu d'être reconnaissante, quoi. Et donc je pense que c'est aussi un autre baromètre de savoir si on est rempli du Saint-Esprit, si on a une attitude qui est comme ça, quoi, de juger, de trouver la faute, de condamner. Ça, c'est pas un fruit de l'esprit vraiment. Et donc en fait on ne rend pas grâce car on pense que tout nous est dû. Donc ça c'est un point important. On pense que telle personne devrait comprendre mes pensées avant que je lui dise exactement ce que je veux. Il faut qu'il lise mes pensées, c'est normal. Parce que moi, il faut qu'on me serve. Donc c'est cette attitude tout m'est dû, en fait. Donc je remercie pas Dieu parce que c'est normal que j'ai toutes ces choses, c'est normal que je respire, c'est normal que je mange à ma faim, c'est normal que mon mari m'aime, c'est normal que, je sais pas, donc plein de choses comme ça. Et c'est pas du tout évident, c'est bon, on ne mérite rien en fait. Donc il y a une deuxième attitude aussi, quand même devant Dieu, on va pas rendre grâce, on va se vanter. On va dire un petit peu comme le pharisien, oh Seigneur, je te remercie parce que je suis pas comme telle personne. T'as vu, moi, je suis arrivée à évangéliser, je suis arrivée à, à aimer cette personne qui n'était pas du tout aimable, j'étais gentille. Mais en fait, c'est hyper hypocrite, quoi. En fait, on est toujours centré sur nous-mêmes, quoi. Et on pense qu'on mérite les choses. Donc, en fait, on ne rend pas grâce. On remercie, on n'a rien à remercier. On dit, Dieu, tu peux me dire merci, s'il te plaît. C'est plutôt ça, quoi. Et la troisième attitude, c'est un peu l'attitude qu'on a eue du lépreux. Lorsque 10 lépreux ont été guéris, il y en a eu un qui est revenu vers Jésus et pour le remercier. Et il savait qu'il ne méritait rien, il ne méritait pas de toute manière d'être guéri. Et donc, il est venu et il a été reconnaissant, quoi. Donc, il nous est dit de rendre grâce continuellement. Donc, ça veut dire qu'on reconnaît le contrôle de Dieu sur chaque détail de nos vies. Et c'est là pour nous façonner à la ressemblance de Christ. Et pour toutes choses, les bonnes, les mauvaises, Job 1:21, il est dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Et Job, on lui a enlevé tout, hein, jusqu'à la santé, et les enfants, et il y avait juste sa femme qui n'était pas d'une grande aide. Et on peut remercier, on remercie Dieu aussi en se rappelant, bien sûr, de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en accord avec ce qu'il est, ce qu'il a fait. Et puis donc, une autre conséquence d'être rempli du Saint-Esprit, eh bien c'est soumettez-vous, soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. C'est ce que ça produit dans nos vies, la soumission les uns aux autres. On recherche le bien de l'autre avant notre propre petit bonheur. Et on a donc un esprit d'humilité. Par la suite, ensuite, l'apôtre Paul va développer dans le couple, qu'est-ce que ça veut dire, et puis dans les relations de travail aussi, le serviteur qui doit être soumis à son maître, etc. Donc, il y aurait plein d'autres choses à dire, mais je crois que je vais m'arrêter là. Et juste pour vous rappeler un peu des points qui me paraissaient importants, être rempli du Saint-Esprit, c'est vraiment le désir de Dieu pour chacun d'entre nous. Et il veut nous guider, nous pénétrer, nous contrôler, donc c'est ce que ça veut dire. Il attend juste notre acceptation, que nous, on soit d'accord. Et puis, ben, c'est une marche de chaque instant, on va tomber et puis on va à nouveau revenir avec une disposition, dire Dieu, oui, prends le contrôle de ma vie. Ça peut arriver 30 fois dans la journée, mais c'est pas grave. Et puis, donc on est rempli, ben, on est rempli du fruit de l'esprit, qui est, on n'en a pas parlé, mais la paix, l'amour, la joie, toutes ces choses-là nous remplissent beaucoup plus que n'importe quel artifice, je dirais, du monde. Tout ce que ce monde voudrait nous donner ne peuvent pas nous donner cette paix, cette joie, cet amour, la tempérance, tout ce qu'on recherche, quoi. On l'a vraiment dans le Saint-Esprit. Et puis, ben, ça va produire un chant, et des actions de grâce, et puis une soumission. Donc toutes ces choses-là aussi sont un peu un baromètre pour nous. Et en même temps, ben, ça glorifie Dieu, quoi, toutes ces choses-là. Christ est exalté, il est montré au monde par le fait qu'on est rempli du Saint-Esprit, et que donc des choses sont manifestées de cette manière-là, par les chants, les actions de grâce, les gens sont soumis les uns aux autres. Les gens voient Christ à travers ça.